de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5. Éphésiens 5, verset 14. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. C'est un verset qui résume la prédication de cet après-midi. Je ne sais pas dans quel état vous êtes venu à cette réunion. Est-ce que vous pensez que vous avez accès à Dieu parce que vous venez ici? Est-ce que vous pensez peut-être que ce que vous faites dans la vie suffit pour que vous puissiez obtenir la clémence de Dieu? Peut-être que vous vous basez simplement sur votre vie qui est rangée. Vous n'avez tué personne, vous n'êtes pas un habitué ou une habituée du mensonge. Vous avez peut-être deux, trois petites choses, mais c'est pas bien grave. Et puis, vous vous basez là-dessus pour croire que mais tout va bien. Et vous vous laissez aller sans vous rendre compte peut-être à des choses, et vous ignorez peut-être même que ce sont des choses qui vous éloignent de Dieu. On va voir une histoire cet après-midi où il est justement question de quelqu'un qui dort, et on va la lire là de suite dans le livre des Actes au chapitre 13. C'est pas 13 d'ailleurs, c'est 12. Actes chapitre 12, vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Une date anniversaire qui parle aux apôtres. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la surveillance de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, sans relâche. La prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Sachant que le texte ne le précise pas, mais pour Jacques, il en a certainement été de même. L'Église qui ne se relâche pas. Ça, c'est une parenthèse. Hérode allait le faire comparaître. Cette nuit-là, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, puis il dit « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta. Revenu à lui, Pierre dit « Maintenant je sais que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » On va s'arrêter là. Ici, on a une situation dans un contexte particulier. Je vais juste un peu planter le décor de cette histoire. Le contexte, c'est l'histoire d'un roi, d'un gouverneur, qui cherche à asseoir son autorité. Vous savez, les premières mesures d'un roi sont importantes. Et Hérode, il vient d'arriver au pouvoir. Et il fait des choses parce qu'il cherche à s'attirer la complaisance du peuple qui est sous sa direction. Le peuple d'Israël était dans un contexte particulier où il y avait les Juifs qui dirigeaient un certain nombre de choses pour l'aspect religieux, mais l'aspect purement de l'État, c'était les Romains qui s'en chargeaient. Et Hérode a voulu faire plaisir aux Juifs pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de soucis dans le pays dont il s'occupait. Et il a eu la bonne idée de faire mourir les apôtres, de vouloir faire mourir les apôtres. Et la mort de Jacques est significative parce que quand il va faire mourir Jacques, c'est à une date anniversaire, comme je le disais, qui rappelait une autre mort, celle d'un dénommé Jésus de Nazareth, qui était mort à la même période. C'est une période pour les Juifs qui parlaient, et je pense aussi que ce qu'il faisait était lourd de sens pour les Juifs qui avaient crucifié Jésus. Les Juifs, plusieurs fois, avaient essayé d'emprisonner Pierre. Il était avec Jean. Mais les Juifs, ils étaient limités quand même. Ils n'avaient pas la possibilité, d'ailleurs on le voit très bien avec Jésus, quand il est mort. Les Juifs ne pouvaient pas le condamner. Ils avaient besoin de l'autorité romaine pour pouvoir le condamner à mort. Et le supplice, d'ailleurs, était romain, il n'était pas juif. Les Juifs, ils pouvaient menacer, ils pouvaient faire peur, et ils ont emprisonné Pierre plusieurs fois, et plusieurs fois il est sorti de prison. Mais les Juifs n'avaient pas le pouvoir de mort sur Pierre. Ici, c'est différent. On a une menace toute différente. On a une menace de mort réelle. Parce que celui qui menace, c'est directement celui qui a le pouvoir de vie et de mort sur le peuple. Et c'est lui qui veut faire mourir. Et là, il y a toute une image. On voit vraiment toute la menace qui est là, une grande menace. Là où peut-être on peut des fois être sujet à des petites menaces, là la menace elle est forte. Elle est très forte. Elle est palpable, je pense. D'ailleurs, elle est tellement palpable que Jacques n'y a pas survécu. Pourtant, l'Église a prié. Pierre a peut-être certainement prié. Et pourtant, on voit que Jacques, il était de la volonté de Dieu qu'il soit repris. Va s'en suivre certainement une période de deuil, quoique certainement très courte, parce que le deuil n'aura peut-être même pas eu le temps de commencer, pour Pierre, entre autres. Mais celui qui a été choisi, ce n'était pas n'importe qui, c'était Jacques, le frère de Jean, celui qui faisait partie des intimes de Jésus. Et il y avait encore là tout un message qui montre le diable qui essaye de saper justement tout ce qui est apporté par Jésus. Tout ce que Jésus peut faire dans une vie, il va chercher là où ça fait mal et il va chercher Jacques. Et le deuxième sur la liste, il est toujours dans le cercle intime de Jésus, il s'appelle Pierre. Et probablement que si Pierre avait été mort, il serait allé, c'est pas écrit mais on peut s'en douter, le troisième c'était Jean. Mais Dieu n'avait pas décidé ainsi. Pierre se retrouve en prison. Il se retrouve en prison, sachant que Jacques l'a précédé, sachant que Jacques est mort, et Pierre est là, dans la prison. Alors on a deux niveaux de lecture de cette histoire. On a un premier niveau de lecture qui consiste à comparer Pierre, et c'est ce que je vais faire dans un premier temps, Pierre est l'image de l'homme qui est prisonnier du péché, de l'homme qui est sous une grande menace, une menace de mort, de quelqu'un qui peut nous entraîner dans la mort. L'image de quelqu'un qui est captif. Cet après-midi, je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es. Je ne sais même pas si tu te rends compte peut-être de ta captivité. Cette histoire, Pierre symbolise tout homme, toute femme qui est captif de ce qu'on appelle le péché. Le péché, c'est ce qui nous pousse à faire des choses qui nous font honte. Le péché, c'est ce qui nous pousse à ne pas, entre guillemets, nous contrôler, qui nous pousse à nous détruire, qui nous pousse à nous diviser les uns les autres. Les familles se déchirent aujourd'hui. C'est l'œuvre du péché. Des peuples, des nations se font la guerre aujourd'hui. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est la faute de l'homme qui a refusé Dieu et qui laisse le péché régner sur lui. Et nous ne pouvons que constater les fruits du péché. Le péché, c'est l'immoralité, cette vie dissolue. Là, c'est pareil, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour se rendre compte dans quel état immoral se trouve l'humanité tout entière aujourd'hui. Le péché, c'est le refus de Dieu. Et en France, on est particulièrement bien placé pour s'opposer à tout ce qui est relié à Dieu. Tout s'oppose. On en est même prêt à certains paradoxes. Dans cette école laïque, on refuse, je ne veux pas faire de politique, mais on refuse Dieu parce que soi-disant on est laïque, et derrière on va fêter Halloween qui est un culte rendu à une déesse païenne à l'origine. Quelque chose qui implique de la croyance et finalement de la foi. Il y a des paradoxes. Mais tant que Dieu est en dehors, tout va bien. Et c'est malheureusement des choses qui sont là. On est habitué à ces choses. On est habitué de voir des familles qui sont en vrac. On est habitué de voir des gens qui ont une vie complètement déréglée. On est habitué de voir tout ce peuple qui vit maintenant la nuit plus que le jour. De voir tout ce peuple qui préfère la nuit au jour. Mais ça, c'est biblique, hein. L'homme a préféré les ténèbres à la lumière. On est habitué à toutes ces choses. Pourquoi ? Parce que le péché est partout. Mais le péché est aussi en nous. Et ce péché-là, il nous rend captifs. Si on ne pratique pas toutes ces choses, ça peut. On peut avoir une vie réglée, une vie rangée. Mais pourtant, on sait tous très bien qu'il y a cette force en nous qui nous pousse à chercher notre propre intérêt. Toujours d'abord. Moi d'abord. Les autres, on verra après. Il y a toujours cette force qui cherche à faire en sorte qu'on va essayer de tirer notre épingle du jeu pour s'en sortir le moins pire possible, quitte à faire des dégâts collatéraux. C'est cette vision égoïste de la vie. Le péché, c'est ce qui fait que on va s'autoriser tout un tas de choses, et même que notre fort intérieur s'y oppose, on ne peut pas résister. On ne peut pas résister à ces colères qui viennent. Elles viennent du plus profond de notre être et elles nous emmènent. On n'arrive pas à corriger notre langage, et d'ailleurs celui qui va le chercher par ses propres forces, il n'y arrivera jamais. Il y a des choses comme ça qui sont dans nous, on s'y oppose. Parce qu'on est quand même d'accord avec le fait que ce ne soit pas bien. Donc on a quand même une notion de bien, de mal. Mais on n'y arrive pas. Et laissez-moi vous dire que si Dieu ne vient pas vous délivrer, vous n'y arriverez jamais. Et c'est là toute l'histoire de Pierre. Pierre, il est endormi. Il est en prison. Il est captif. Jésus, quand il a prêché pour la première fois, il a dit ceci. C'était dans une synagogue et il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Cet après-midi, si à la lumière de cette courte description que je viens de faire, vous réalisez, vous vous sentez concerné, sachez que en Jésus-Christ, il y a une délivrance qui est là possible. Vous pouvez saisir par la foi la délivrance que Dieu veut vous donner. Ce n'est pas la volonté de Dieu de voir les hommes ainsi s'entretuer. Ce n'est pas la volonté de Dieu de voir les hommes divisés. Ce n'est pas la volonté de Dieu de vous voir malheureux, déprimés, angoissés. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et Dieu, il désire intervenir dans vos vies pour vous faire du bien. Ce n'est pas la volonté de Dieu de vous voir emprisonné dans des addictions. C'est pareil. S'il y a bien une prison qu'on peut décrire, c'est bien les addictions. Les addictions, ce sont des prisons. On essaye de s'en défaire, mais il n'y a rien à faire. Dieu veut vous délivrer. Et j'aimerais te dire, je le dis exprès de cette manière pour que vous réalisiez que c'est personnel. J'aimerais te dire cet après-midi que la délivrance, tu peux la saisir. Cet après-midi, tu peux sortir de ce lieu délivré. Alors que s'est-il passé? L'apôtre Pierre dormait dans la prison et il a été délivré. Un ange arrive, on l'a lu. Avez-vous remarqué que la lumière que provoque l'ange n'a même pas réveillé Pierre? Vous aviez vu? Et il y a une grande lumière, c'est écrit, on le relit. Verset 7, « Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. » L'ange réveilla Pierre comment? Par la lumière? Non. En le frappant au côté. La lumière n'a rien fait. Hey, « Eh oh Pierre, réveille-toi! Tu es là cet après-midi, Pierre. Tu viens réunion après réunion. » Et malgré la lumière qui est là, tu ne te réveilles pas. Si tu ne te réveilles pas par la lumière, Dieu va aller plus loin parce qu'il t'aime. Il veut te sortir de là. Il veut te sortir de là, mais il va être obligé d'aller un peu plus loin qu'allumer la lumière. Bien sûr, dans ce passage, on n'imagine pas que l'ange ait fait mal à Pierre. Mais c'est quand même pour nous dire que des fois, le Seigneur, il peut permettre des souffrances, il peut permettre des situations, il peut permettre que nous soyons touchés, parce que malheureusement, la méthode douce n'a pas marché. Et peut-être que cet après-midi, tu es là, tu viens réunion après réunion, et tu écoutes, mais tu ne reçois pas. On a beau allumer la lumière, tu ne te réveilles pas. Et il se pourrait bien que si tu vis une difficulté dans ta vie en ce moment, c'est Dieu qui l'a permise pour que tu te réveilles. Peut-être que Dieu t'a touché physiquement. Peut-être que Dieu t'a touché dans ta vie professionnelle, ta vie familiale. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Peut-être est-ce une grâce de Dieu. Oui, j'ai bien dit. C'est peut-être une grâce de Dieu ce qui t'arrive. Parce que ce que le Seigneur, ce qu'il recherche, c'est que tu te réveilles. Parce qu'il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. L'ange est venu auprès de Pierre et l'a frappé au côté. Si tu restes dans cette prison du péché, tu vas périr. C'est peut-être cru comme manière de le dire, mais c'est ça. Celui qui reste ainsi, endormi dans sa situation, dans cette satisfaction de sa petite vie, et qui ne veut rien changer, qui ne veut rien réaliser, qui n'est pas honnête devant Dieu, quand on lui dit « il y a du péché dans ta vie, il faut que tu le règles », et on essaye de se justifier par nos bonnes œuvres, par des tas de choses, mais ça ne marche pas, ça ne tient pas. Cette position-là consiste à ne pas vouloir se réveiller. Que dit l'ange ensuite à Pierre? Lève-toi promptement. Et là, Pierre, quand il entend ça, bon, il s'est réveillé, il a eu ce petit coup sur le côté qu'il a sorti de son sommeil, mais il n'est pas complètement réveillé. Et l'ange lui dit, lève-toi promptement. Et puis là, il regarde ses mains et puis il voit les chaînes. Mais je ne peux pas me lever, je suis enchaîné. Le Seigneur t'appelle à saisir une délivrance. Et Pierre, sa délivrance, il l'a aussi saisie. Parce qu'il a obéi. Peut-être que tu es prisonnier à des addictions. Que ce soit le tabac, que ce soit l'alcool, que ce soit la violence, que ce soit l'addiction aux propos grossiers, c'est une addiction quelque part aussi. J'en sais rien, il y en a tellement. La pornographie, les réseaux sociaux, je peux allonger la liste. Mais on peut tous en avoir. Et il y a un moment donné où il faut considérer la délivrance. Mais je peux pas, je suis enchaîné justement, je peux pas me lever. Mais justement, fais le geste de te lever. Commence à considérer que tu n'as plus les chaînes. C'est comme ça qu'elle se saisit, la délivrance. Celui qui est dans l'alcool et qui demande à être délivré de l'alcoolisme, mais qui continue de garder chez lui ce qui le fait tomber. On l'a lu ce matin, on peut le relire, hein. Matthieu, chapitre 5. On va quand même le lire, prendre le temps de le lire parce que ça me semble important. Matthieu, chapitre 5. Verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Le conseil est simple. Il y a quelque chose qui te fait chuter. Tu veux être délivré? Eh bien, ça ne sert à rien de demander de prier. Ce qu'il faut faire, c'est tout balancer. Excusez-moi le vocabulaire, mais c'est ça. Il faut tout jeter. Tout ce qui te lie. Peut-être que tu es lié aux réseaux sociaux, mais ferme ton compte. Tu passes des heures et des heures, ferme ton compte. Comme ça, le Seigneur pourrait intervenir. On donne l'impulsion et Dieu, il fait tomber les chaînes. Est-ce qu'il y a question de souffrance dans cette affaire ? Est-ce que Pierre a souffert des chaînes qui sont tombées ? Absolument pas. Pierre a donné l'impulsion. Il s'est levé, il s'est approché de Dieu. Il s'est levé, il a fait confiance dans la parole qu'il avait reçue. Et les chaînes sont tombées. Mais Pierre n'a pas souffert. Celui qui fait confiance à Dieu, qui demande sa grâce pour la délivrance, il ne souffrira pas. Celui qui obéit, il ne souffrira pas. On a entendu dernièrement le témoignage d'un jeune baptisé qui partageait qu'il avait été délivré de la cigarette, de la drogue même, et que c'est arrivé du jour au lendemain. Il n'a pas souffert. Si c'est possible, c'est possible aujourd'hui, on en a la preuve, même parmi nous. Il faut le saisir par la foi. Il faut le saisir par la foi. L'ange dit ensuite à Pierre, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Souvent, malheureusement, beaucoup se réconfortent dans le fait qu'un jour, ils ont fait une expérience avec Dieu. Qu'ils se sont approchés une fois un appel, ils ont senti la présence de Dieu, et je ne remets pas en cause ces expériences. Mais ce n'est pas suffisant. Faire des expériences, c'est bien, mais il en est une autre de faire des expériences. Pierre, il aurait pu dire « Oh, les chaînes sont tombées, mais c'est super !» Mais s'il reste dans sa cellule, excusez-moi, mais il est toujours en prison. Il faut aller plus loin. Il faut sortir. Il faut sortir pour avoir la délivrance. Il est question ici d'une personne qui peut-être a fait une expérience avec Dieu. Mais il faut sortir. Maintenant, il faut mettre cette ceinture de la vérité. Tiens, c'est l'apôtre Paul qui en parle. Cette ceinture de la vérité. Est-ce que je suis vrai devant Dieu ? Oui. Il faut que je réalise que j'ai besoin de Dieu, la grâce de Dieu. Jésus-Christ est mort sur une croix, et Pierre le savait. Cette date-là, il s'en rappelait forcément. Il savait que celui pour qui il avait tout donné était mort. C'est une date aussi qui rappelait à Pierre ce que lui aussi avait pu vivre pendant cette période. C'était l'occasion de se rappeler des choses, vous savez. Les anniversaires, on réfléchit. Et l'apôtre Pierre, ici, C'est pas la situation dans laquelle il se trouve, mais l'image à laquelle je me réfère, c'est celle-là. C'est que on peut avoir saisi la délivrance de Dieu, on peut avoir fait une expérience avec Dieu, mais il en est une que de faire une expérience, mais c'en est une autre que de demander au Seigneur pardon pour ses péchés. C'en est une autre que de s'approcher de Dieu, de mettre ses chaussures et sa ceinture de la vérité, et ainsi de s'approcher de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, vous allez me dire, ce jargon? Eh bien, c'est simplement une attitude de cœur. Seigneur, je me place devant toi. Oui, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de ta grâce. Et que si tu n'interviens pas, eh bien, je vais être perdu. J'ai aussi conscience que tu es mort pour moi sur la croix du calvaire, que ton sang a coulé pour moi, par amour pour moi. Tu as souffert pour moi. Tu as pris mes liens. Tu as pris mes chaînes. Alors que moi, mes chaînes tombent, toi, tu les as prises. Tu as accepté d'être humilié, d'être traité comme un criminel, pour moi, parce que tu m'aimais. Celui qui reconnaît ainsi son besoin, sa pauvreté, parce que tout s'obtient par grâce de Dieu. On ne peut rien mériter. Et peut-être que le sommeil dans lequel tu es, c'est de croire que tu peux mériter des choses. Tu ne peux rien mériter. On ne peut rien mériter. Il ne faut pas rester dans cette prison. Il faut mettre la ceinture. Il faut aller plus loin que l'expérience. Il faut aller plus loin. Et l'ange lui dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Voilà la démarche complète de la conversion. Et il y a la repentance, on demande pardon au Seigneur pour ses péchés. On réalise combien nous sommes pauvres, combien nous sommes pécheurs, combien nous sommes honteux à cause de ce péché qui a fait mourir Jésus-Christ. Et derrière, je n'en reste pas là. Je vais le suivre. Prendre le manteau, c'est encore... Ici, on a une allusion au Saint-Esprit qui nous permet justement une marche. Parce que le but, c'est de sortir. Le but, c'est de sortir. C'est de marcher. Le but n'est pas de rester dans la cellule. Le but est de sortir et de marcher. Et dans la nuit, il fait froid. Et on voit tout l'amour de Dieu encore qui, oui, il faut marcher pour sortir, mais prends ton manteau. Dieu pourvoit à nos besoins. Et le chrétien le vérifie régulièrement. Le chrétien le vérifie. Mais ce manteau nous parle de quelque chose de bien plus important que le fait que Dieu veille sur nos besoins matériels. Dieu veut veiller sur nos besoins spirituels et pour cela il nous a donné le manteau du Saint-Esprit. Prends ton manteau, parce que sinon tu vas avoir froid. Ta marche ne sera pas facile. Le manteau nous permet de marcher dans la nuit, et d'affronter le froid. Nous avons tous besoin de cette présence du Saint-Esprit dans nos vies. C'est pas le tout de vouloir commencer à marcher, mais il y a un grand conseil qui est de prendre le manteau. Le Seigneur t'appelle à faire cette expérience et à demander. Si tu es passé par la repentance, si tu as déjà demandé pardon pour tes péchés, tu as aussi besoin du manteau pour marcher. Tu as besoin de la présence de Dieu en toi et tu ne pourras que constater combien il est plus agréable. Le manteau, quand il fait froid, il est bien agréable. Je pense qu'on est tous d'accord, surtout en ce moment. C'est agréable, il nous réchauffe et il nous permet de rester plus longtemps dehors. Dans la vie spirituelle, c'est pareil. On a besoin de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que c'est grâce à cette douce présence que nous pourrons affronter le froid, les ténèbres du dehors. On en a besoin, ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas optionnel. On en a besoin. Et si tu n'as pas fait cette demande à Dieu, tu peux la faire cet après-midi encore. C'est ainsi qu'on pourra suivre le Seigneur. C'est ainsi qu'on pourra marcher à sa suite et qu'on pourra aller vers la sortie. Qu'on pourra saisir pleinement la délivrance que Dieu veut nous donner, que Dieu veut te donner. Maintenant, juste pour terminer, j'aimerais donner un deuxième aspect de cette histoire. C'est que l'apôtre Pierre, il n'est pas dans un état où il a besoin de se convertir, même si on ne peut prêcher en indiquant ces choses, parce que le passage est édifiant pour cela. Pierre n'est pas dans une situation d'avoir besoin de se convertir, d'avoir à se reprocher quoi que ce soit, bien au contraire. L'apôtre Pierre, c'est quelqu'un qui est en prison parce qu'il aime Dieu. C'est quelqu'un qui est en prison parce qu'il fait la volonté de Dieu. Et l'apôtre Pierre, il est aussi l'image. Pierre qui dort en prison, c'est aussi toute une belle image du chrétien qui vit dans le repos de la foi. Il est peut-être en prison, mais il dort. Il est dans la paix. Il est dans le repos. Vous savez, il y a trois choses que j'ai notées que le sommeil nous donne. Quand on dort, on ne se rend pas compte du temps qui passe. Je pense que nous sommes tous d'accord. Un chrétien qui vit dans le repos de la foi, il n'a plus le même rapport au temps que quelqu'un qui n'est pas converti, que quelqu'un qui n'est pas dans le repos, justement. Quelqu'un qui vit dans le repos de la foi, il n'a pas du tout le même rapport au temps. Il peut se montrer très patient, parce que ça passe vite quand on dort. Les choses passent vite quand on dort. Quand on dort, on reprend des forces. C'est vrai. Sinon, on ne dormirait pas. C'est un besoin. Et tout chrétien a besoin aussi de vivre dans ce repos de la foi. C'est un vrai repos que de faire confiance à ce que Dieu dit. Quand on s'appuie sur des paroles de Dieu, eh bien vraiment, on se repose, on reprend des forces, comme quand on dort. Quand on dort, pour certains, c'est peut-être arrivé, des souffrances peuvent arriver, et on ne sent rien. Ça s'appelle l'anesthésie. Pourquoi quand on va à l'hôpital, on nous endort ? Parce que quand on dort, on ne ressent pas les souffrances. Parce qu'il y a une partie nerveuse qui est endormie. Le chrétien qui vit dans le repos de la foi, il peut vivre des souffrances. Mais ça lui fait pas mal. Ça lui fait pas mal. Parce que justement, il est dans le repos de la foi. Il peut traverser des persécutions, mais ça ne lui fait pas mal. Il ne souffre pas. Il est insensible à ces choses. On peut le maltraiter, on peut le mépriser, on peut l'insulter. Ça ne lui fait pas mal. Parce qu'il vit dans le repos de la foi. Ça ne blesse pas. Ça ne fait rien, parce que j'y suis insensible, parce que je dors. Vous savez, Pierre, il est en prison. Et pourtant, quelque chose me dit qu'il est convaincu que son heure n'est pas encore venue. Vous savez pourquoi ? Eh bien, on va le lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 21. Toute parole de Jésus est intelligente, bien sûr. Et comme souvent, Jésus parle au sens littéral, mais aussi au sens spirituel. Je ne vais pas faire une prédication sur cette parole de Jésus. Mais je crois qu'on peut quand même considérer le sens littéral de ce que Jésus dit à Pierre. Jean 21, verset 18. Jésus dit à Pierre, « en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, ah, il est question de vieillir là. Quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'arrachera et te mènera où tu ne voudras pas. » Il indiquait, en verset 19, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Or, si vous avez lu avec moi comment l'apôtre Jacques a été exécuté, vous vous rappelez ? Comment il est mort, Jacques ? Voilà. Il est mort par l'épée. Il n'est pas mort par la croix. Donc Pierre, il savait. Il avait reçu une parole de Jésus qui lui disait qu'il atteindrait un âge avancé. Il avait reçu une parole du Seigneur qui lui dirait de quelle manière il mourrait. Or, là, s'il prenait appui sur cette parole de Jésus, il savait pertinemment que ce n'était pas son heure. Vous voyez, quand on s'appuie sur une parole de Jésus, on peut être capable de dormir même en prison. Le vent peut souffler, peu importe. Le temps qui passait n'a pas découragé Pierre. Il a renouvelé ses forces, même en prison. Et d'ailleurs, cette expérience l'a amené à consolider encore plus sa foi, parce qu'il a pu vérifier que Dieu le protégeait, prenait soin de lui. Il n'avait aucune peur de qui que ce soit, même la grande menace de la mort. Et il était insensible à la persécution, même si Jacques était mort, même si l'Église souffrait de la persécution. Il a vu aussi Étienne se faire lapider, probablement. Et bien pourtant, il restait ferme, croyant que le Seigneur Jésus avait mieux à lui donner que cette vie sur cette terre. Et il savait aussi qu'en servant le Seigneur sur cette terre, en le suivant de tout son cœur, un jour, il pourrait être auprès de lui. Ce n'est pas le fait de servir Dieu qui nous donne le salut. Ce qui nous donne le salut, c'est de nous convertir, c'est de demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Ce que nous avons vu en première partie de ce message. Mais quand même, c'est bien de demander pardon au Seigneur pour nos péchés, c'est bien de faire l'expérience de la repentance, de faire l'expérience du pardon des péchés, cette paix qui vient dans notre cœur, comme nous l'avons chanté, comme un océan. Mais quand on sert le Seigneur, on vit aussi des choses qui nous rendent joyeux. On vit aussi une vie qui nous permet finalement de, en attendant une autre délivrance, un jour le Seigneur reviendra chercher ceux qui lui appartiennent. Nous sommes aussi quelque part comme des captifs, comme des prisonniers de notre propre corps qui nous amène à faire du mal. On a parlé ce matin de la jalousie, un péché charnel, on va dire. Notre corps nous amène à faire des choses qu'on regrette. Et quelque part, on est un peu comme en prison, parce qu'on aimerait être dans un corps qui ne nous pousse pas à ces choses, parce qu'on les a en horreur quand on aime le Seigneur. Un jour, il viendra nous délivrer. Et nous aurons un nouveau corps. Un corps qu'il a fait pour nous. Un corps qui nous amènera à ne plus avoir ces luttes perpétuelles. Un corps qui ne nous fera plus souffrir de l'arthrose, de ce que vous voulez. Une vraie délivrance. Une vraie délivrance attend le chrétien. Une vraie délivrance attend celui qui l'aime de tout son cœur. Mais en attendant ce jour, il n'y a pas mieux que de vivre dans ce repos que de servir le Seigneur. Celui qui sert le Seigneur, eh bien, il sera comme Pierre. Il pourrait être dans une prison, il sera capable de dormir. Et la prison où il sera peut-être même un lieu où il reprendra des forces. Que le Seigneur nous aide.